Elisabeth Cassens, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les enjeux de la révision du code minier du Congo-Kinshasa?
Alors, l'enjeu, c'est vraiment le partage des recettes qui proviennent de ces secteurs, qui est crucial pour la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, il y a un très fort débat entre d'un côté la partie étatique et de l'autre côté les investisseurs qui sont présents dans le pays par rapport à ce code minier qui prévoit dans sa mouture actuelle une forte hausse de nombreuses taxes.
Et je crois que c'est en effet une hausse très importante puisque c'est une taxe qui passerait de 2% à 10%, c'est cela?
Alors, c'est un ensemble de différentes taxes, hein. Donc, la hausse générale, c'est prévu qu'elle passe de 2 à 3,5%. Par contre, il y a une disposition dans le projet de révision du code qui prévoit que si certaines substances sont qualifiées de stratégiques, ce taux de 3,5% passe à 10%. Et le minerai qui est le plus visé par cette disposition actuellement, c'est le cobalt, un minerai qui est très important pour le boom des voitures électriques, pour les téléphones portables, tout ce qui a des batteries rechargeables a besoin en fait de ce cobalt, qui est très très présent en Congo. Plus de la moitié des réserves mondiales sont présentes au Congo. Donc, si le gouvernement décide que le cobalt est stratégique et le qualifie comme tel, prend une mesure pour le qualifier comme tel, le taux de la redevance passerait de 2% à 10%. Donc, il serait multiplié par 5.
Alors, à partir du moment où la moitié des réserves de cobalt sont au Congo-Kinshasa, est-ce que ce pays n'est pas en position de force?
Il est justement en position de force et à l'Indaba, au Cap, il a été très clair dans les différents discours du ministre des Mines, du président de la Fédération des entreprises du Congo, que le Congo a l'impression qu'elle devrait être en position de force et elle ne l'est pas. Et donc c'est ça qu'on voit maintenant avec cette proposition de révision du code, c'est vraiment de regagner la main sur son secteur.
C'est le discours du ministre congolais des Mines, hein, Martin Kouabelulu.
Oui, alors aussi bien le discours du ministre des Mines, Martin Kabeloulou, qui a été très clair à ce sujet. Donc pour lui, cette révision voudrait aller vers un code minier qui se veut ce qu'il appelle gagnant-gagnant, rémunérateur. Donc ça, c'est un peu le mot-clé. Mais il a été rejoint dans ses propos, mais sur un ton encore beaucoup plus fort et beaucoup plus agressif, en fait, par le président de la plus grande entreprise minière étatique du Congo, la GKMine, le président Albert Yuma. Il a même qualifié les pratiques de délinquantes, de criminelles. Donc il a utilisé un langage très très fort pour signaler que le Congo ne tire pas suffisamment de recettes de son secteur.
Alors que répondent ces grands investisseurs internationaux comme le Suisse Glencore, le Sud-Africain Randgold ou les Chinois?
Alors pour eux, ils ont investi des milliards de dollars dans leurs investissements et comme le risque est très élevé, ils attendent aussi un rendement très élevé. Ils espèrent un retour sur investissement et qu'ils puissent s'attendre à ce qu'ils devraient payer. Donc en termes de taxes, des grands groupes, ils veulent pouvoir calculer sur une période de 10 ans ce qu'ils pourraient s'attendre comme retour. Et c'est là que maintenant se situe le débat. Ils n'ont plus ces stabilités. Alors ces entreprises, de façon générale, je ne pense pas qu'elles soient forcément contre une certaine hausse des taxes. Je pense que certains d'entre eux reconnaissent qu'effectivement le code qui est en place est assez libéral, est probablement trop libéral, et ils ne seraient pas forcément opposés à payer un peu plus, je pense. Par contre, là où ils reviennent aussi, c'est qu'ils voudraient voir ce qui se passe avec cet argent qui va au Congo. Et c'est là qu'ils argumentent, d'accord, nous voulons bien payer plus, mais qu'est-ce qui est fait de cet argent? Où sont les retombées de l'argent que nous payons au Congo? D'accord, augmenter les taxes, mais pour quelle fin?
Donc, à vous entendre, des groupes comme le Suisse Glencore font la leçon en matière de transparence, mais est-ce que Glencore lui-même a des activités vraiment transparentes?
Bon, alors, le groupe Glencore a fait l'objet de beaucoup de controverses au courant des dernières années, notamment de par leur partenariat qui a duré quand même une dizaine d'années avec un homme d'affaires assez controversé, l'Israélien Dan Gertler. Et effectivement, il y a eu des transactions, il y a eu des partenariats controversés avec cet homme qui, en décembre dernier, a été sanctionné par le gouvernement américain pour cause de haute corruption.
Alors dans ce bras de fer, quel est le moyen de pression de ces grands groupes miniers? Est-ce qu'ils peuvent menacer de quitter le Congo-Kinshasa?
Alors oui, ils peuvent menacer de quitter, peut-être pas pour l'instant, ça reste à voir, mais ils peuvent menacer la suspension des opérations, ils peuvent surtout menacer avec des procès d'arbitrage qui peuvent coûter très cher. Et c'est plutôt dans cette voie-là qu'on voit le discours à l'heure actuelle. On a déjà vu certains groupes menacer qu'on intenterait des procès d'arbitrage au niveau international si la version actuelle du code est adoptée. On voit que cette menace de fermeture n'est pas complètement abstraite, hein. Donc le pays voisin, la Zambie a adopté une très haute hausse des redevances il y a quelques années et les groupes sont effectivement passés à l'acte. Ils ont fermé plusieurs usines avec des milliers d'emplois perdus ou du moins suspendus temporairement et le gouvernement zambien s'est vu forcé à revoir sa décision, Après, le cours du cobalt est tellement élevé que, évidemment, ces groupes qui contrôlent le cobalt n'ont pas envie de perdre les recettes qui découlent de la hausse très spectaculaire des prix. Et donc, à mon avis, la menace d'arbitrage international est beaucoup plus réelle que la menace de suspendre les opérations.
Elisabeth Cassens, merci.